Chapitre 9 En campagne. Il avait pensé que les mercenaires l'attendraient à Utique ou qu'ils reviendraient contre lui. Et, ne trouvant pas ses forces suffisantes pour donner l'attaque ou pour la recevoir, il s'était enfoncé dans le sud par la rive droite du fleuve, ce qui le mettait immédiatement à couvert d'une surprise. Il voulait, fermant d'abord les yeux sur leur révolte, détacher toutes les tribus de la cause des barbares, puis quand ils seraient bien isolés au milieu des provinces, ils tomberaient sur eux et les extermineraient. En 14 jours, il pacifia la région comprise entre Toukhaber et Utique, avec les villes de Tignishkaba, Tessoura, Vakka et autres encore à l'occident. Zughar, bâti dans les montagnes, Assouras, célèbre par son temple, Gerado, fertile en genévrier, Tapitis et Agour lui envoyèrent des ambassades. Les gens de la campagne arrivaient les mains pleines de vivres, imploraient sa protection, baisaient ses pieds, ceux des soldats et se plaignaient des barbares. Quelques-uns venaient lui offrir dans des sacs des têtes de mercenaires, tuées par eux, disait-il, mais qu'ils avaient coupées à des cadavres. Car beaucoup s'étaient perdus en fuyant et on les trouvait morts de place en place, sous les oliviers et dans les vignes. Pour éblouir le peuple, Hamilcar, dès le lendemain de la victoire, avait envoyé à Carthage les 2000 captifs faits sur le champ de bataille. Ils arrivèrent par longues compagnies de 100 hommes chacune, tous les bras attachés sur le dos avec une barre de bronze qui les prenait à la nuque, et les blessés, en saignant, couraient aussi. Des cavaliers derrière eux les chassaient à coups de fouet. Ce fut un délire de joie. On se répétait qu'il y avait eu 6000 barbares de tués. Les autres ne tiendraient pas, la guerre était finie. On s'embrassait dans les rues et l'on frotta de beurre et de cinnamone la figure des dieux pataïques pour les remercier. Avec leurs gros yeux, leurs gros ventres et leurs deux bras levés jusqu'aux épaules, ils semblaient vivre sous leur peinture plus fraîche et participer à l'allégresse du peuple. Les riches laissaient leurs portes ouvertes. La ville retentissait du ronflement des tambourins. Les temples, toutes les nuits, étaient illuminés, et les servantes de la déesse, descendues dans le Malka, établirent au coin des carrefours des tréteaux en sycomore où elles se prostituaient. On vota des terres pour les vainqueurs, des holocaustes pour Melkarth, 300 couronnes d'or pour le suffète, et ses partisans proposaient de lui décerner des prérogatives et des honneurs nouveaux. Il avait sollicité les anciens de faire des ouvertures à Tarit pour échanger contre tous les barbares, s'il le fallait, le vieux Giscon avec les autres Carthaginois détenus contre comme lui. Les Libyens et les nomades qui composaient l'armée d'Otarit connaissaient à peine ces mercenaires, hommes de race italiote ou grecque. Et puisque la République leur offrait tant de barbares contre si peu de Carthaginois, c'est que les uns étaient de nulle valeur et que les autres en avaient une considérable. Ils craignaient un piège et Otarit refusa. Alors les anciens décrétèrent l'exécution des captifs, bien que le suffète leur eût écrit de ne pas les mettre à mort. Il comptait incorporer les meilleurs dans ses troupes et exciter par là des défections. Mais la haine emporta toute réserve. Les 2000 barbares furent attachés dans les mappales contre les stèles des tombeaux. Et des marchands, des goujats de cuisine, des brodeurs et même des femmes, les veuves des morts avec leurs enfants, tous ceux qui voulaient, vinrent les tuer à coups de flèche. On les visait lentement pour mieux prolonger leur supplice. On baissait son arme, puis on la relevait tour à tour, et la multitude se poussait en hurlant. Des paralytiques se faisaient amener sur des civières. Beaucoup, par précaution, apportaient leur nourriture et restaient là jusqu'au soir. D'autres y passaient la nuit. On avait planté des tentes où l'on buvait. Plusieurs gagnèrent de fortes sommes à louer des arcs. Puis on laissa debout tous ces cadavres crucifiés qui semblaient sur les tombeaux autant de statues rouges, et l'exaltation gagnait jusqu'aux gens de Malka, issus des familles autochtones et d'ordinaire indifférents aux choses de la patrie. Par reconnaissance des plaisirs qu'elle leur donnait, maintenant ils s'intéressaient à sa fortune, se sentaient puniques, et les anciens trouvèrent habile d'avoir ainsi fondu dans une même vengeance le peuple entier. La sanction des dieux n'y manqua pas, car de tous les côtés du ciel, des corbeaux s'abattirent. Ils volaient en tournant dans l'air avec de grands cris rauques et faisaient un nuage énorme qui roulait sur soi-même continuellement. On l'apercevait de Clypea, de Rhadès et du promontoire Hermaeum. Parfois, il se crevait tout à coup, élargissant au loin ses spirales noires. C'était un aigle qui fondait dans le milieu puis repartait. Sur les terrasses, sur les dômes, à la pointe des obélisques et au fronton des temples, il y avait çà et là de gros oiseaux qui tenaient dans leur bec rougi des lambeaux humains. À cause de l'odeur, les Carthaginois se résignèrent à délier les cadavres. On en brûla quelques-uns, on jeta les autres à la mer, et les vagues, poussées par le vent du nord, en déposèrent sur la plage au fond du golfe, devant le camp d'Atarit. Ce châtiment avait terrifié les barbares, sans doute, car du haut des Shmoun, on les vit abattre leurs tentes, réunir leurs troupeaux, hisser leurs bagages sur des ânes, et le soir du même jour, l'armée entière s'éloigna. Elle devait, en se portant depuis la montagne des eaux chaudes jusqu'à Hypposarit, alternativement, interdire au suffète l'approche des villes tyriennes avec la possibilité d'un retour sur Carthage. Pendant ce temps-là, les deux autres armées tâcheraient de l'atteindre dans le sud, Spendius par l'Orient, Matto par l'Occident, de manière à se joindre toutes les trois pour le surprendre et l'enlacer. Puis un renfort qu'ils n'espéraient pas leur survint. Narhavas reparut avec 300 chameaux chargés de bitume, 25 éléphants et 6000 cavaliers. Le suffète, pour affaiblir les mercenaires, avait jugé prudent de l'occuper au loin dans son royaume. Du fond de Carthage, il s'était entendu avec Masgaba, un brigand gétule qui cherchait à se faire un empire. Fort de l'argent punique, le coureur d'aventure avait soulevé les États numides en leur promettant la liberté. Mais Narhavas, prévenu par le fils de sa nourrice, était tombé dans Sirta, avait empoisonné les vainqueurs avec l'eau des citernes, abattu quelques têtes, tout rétabli, et il arrivait contre le suffète plus furieux que les barbares. Les chefs des quatre armées s'entendirent sur les dispositions de la guerre. Elle serait longue, il fallait tout prévoir. On convint d'abord de réclamer l'assistance des Romains et l'on offrit cette mission à Spendius. Comme transfuge, il n'osa s'en charger. 12 hommes des colonies grecques s'embarquèrent à Annaba sur une chaloupe des Numides. Puis les chefs exigèrent de tous les barbares le serment d'une obéissance complète. Chaque jour, les capitaines inspectaient les vêtements, les chaussures. On défendit même aux sentinelles l'usage du bouclier, car souvent elles l'appuyaient contre leurs lances et s'endormaient debout. Ceux qui traînaient quelques bagages furent contraints de s'en défaire. Tout, à la mode romaine, devait être porté sur le dos. Par précaution contre les éléphants, Mato institua un corps de cavalier cataphracte, où l'homme et le cheval disparaissaient sous une cuirasse en peau d'hippopotame, hérissée de clous. Et pour protéger la corde des chevaux, on leur fit des bottines en tresse de sparterie. Il fut interdit de piller les bourgs, de tyranniser les habitants de races non puniques. Mais comme la contrée s'épuisait, Mato ordonna de distribuer les vivres par tête de soldats sans s'inquiéter des femmes. D'abord, ils les partagèrent avec elles, mais faute de nourriture, beaucoup s'affaiblissaient. C'était une occasion incessante de querelles, d'invectives, plusieurs attirant les compagnes des autres par l'appât ou même la promesse de leur portion. Mato commanda de les chasser tout impitoyablement. Elles se réfugièrent dans le camp d'Otarite, mais les Gauloises et les Libyennes, à force d'outrage, les contraignirent à s'en aller. Enfin, elles vinrent, sous les murs de Carthage, implorer la protection de Cérès et de Proserpine, car il y avait dans Byrsa un temple et des prêtres consacrés à ces déesses, en expiation des hautes horreurs commises autrefois au siège de Syracuse. Les Sicites, alléguant leur droit d'épave, réclamèrent les plus jeunes pour les vendre. Et des Carthaginois nouveaux prirent en mariage des Lacédémoniennes qui étaient blondes. Quelques-unes s'obstinèrent à suivre les armées. Elles couraient sur le flanc des syntagmes à côté des capitaines. Elles appelaient leurs hommes, les tiraient par le manteau, se frappaient la poitrine en les maudissant et tendaient au bout de leurs bras leurs petits enfants nus qui pleuraient. Ce spectacle amollissait les barbares. Elles étaient un embarras, un péril. Plusieurs fois on les repoussa, elles revenaient. Mato les fit charger à coups de lance par les cavaliers de Narhavas. Et comme des baléares lui criaient qu'il leur fallait des femmes, « Moi, je n'en ai pas, » répondit-il. À présent, le génie de Moloch l'envahissait. Malgré les rébellions de sa conscience, il exécutait des choses épouvantables, s'imaginant obéir à la voix d'un dieu. Quand il ne pouvait les ravager, Mato jetait les pierres dans les champs pour les rendre stériles. Par des messages réitérés, il pressait Otarite et Spendius de se hâter. Mais les opérations du suffète étaient incompréhensibles. Il campa successivement à Eidous, à Mouchar, à Athéent. Des éclaireurs crurent l'apercevoir aux environs d'Ischil, près des frontières de Narhavas, et l'on apprit qu'il avait traversé le fleuve au-dessus de Tébourba, comme pour revenir à Carthage. À peine dans un endroit, il se transportait vers un autre. Les routes qu'il prenait restaient toujours inconnues. Sans livrer de bataille, le suffète conservait ses avantages. Poursuivi par les barbares, il semblait les conduire. Ses marches et ses contre-marches fatiguaient encore plus les Carthaginois. Et les forces d'Hamilcar, n'étant pas renouvelées, et de jour en jour diminuaient. Les gens de la campagne lui apportaient maintenant des vivres avec plus de lenteur. Il rencontrait partout une hésitation, une haine taciturne. Et malgré ses supplications près du Grand Conseil, aucun secours n'arrivait de Carthage. On disait, on croyait peut-être, qu'il n'en avait pas besoin. C'était une ruse ou des plaintes inutiles. Et les partisans d'un nom, afin de le desservir, exagéraient l'importance de sa victoire. Les troupes qu'il commandait, on en faisait le sacrifice, mais on n'allait pas ainsi continuellement fournir toutes ses demandes. La guerre était bien assez lourde, elle avait trop coûté, et par orgueil, les patriciens de sa faction l'appuyaient avec mollesse. Alors, désespérant de la République, Hamilcar leva de force dans les tribus tout ce qu'il lui fallait pour la guerre, du grain, de l'huile, du bois, des bestiaux et des hommes. Mais les habitants ne tardèrent pas à s'enfuir. Les bourgs que l'on traversait étaient vides. On fouillait les cabanes sans rien trouver. Bientôt, une effroyable solitude enveloppa l'armée punique. Les Carthaginois, furieux, se mirent à saccager les provinces. Ils comblaient les citernes, incendiaient les maisons, et les flammèches emportées par le vent s'éparpillaient au loin, et sur les montagnes, des forêts entières brûlaient. Elles bordaient les vallées d'une couronne de feu. Pour passer au-delà, on était forcé d'attendre. Puis ils reprenaient leur marche en plein soleil, sur des cendres chaudes. Quelquefois, ils voyaient au bord de la route luire dans un buisson comme des prunelles de chat-tigre. C'était un barbare accroupi sur les talons et qui s'était barbouillé de poussière pour se confondre avec la couleur du feuillage. Ou bien, quand on logeait une ravine, ce qui était sur les ailes entendait tout à coup rouler les pierres, et en levant les yeux, ils apercevaient dans l'écartement de la gorge un homme pieds nus qui bondissait. Cependant, Utique et Hipposarite étaient libres, puisque les mercenaires ne les assiégeaient plus. Hamilcar leur commanda de venir à son aide. Mais, n'osant se compromettre, elles lui répondirent par des mots vagues, des compliments, des excuses. Il remonta dans le nord, brusquement, décidé à s'ouvrir une des villes tyriennes, dut-il en faire le siège. Il lui fallait un point sur la côte, afin de tirer des îles ou de Cyrène, des approvisionnements et des soldats, et il convoitait le port d'Utique comme étant le plus près de Carthage. Le suffète partit donc de Zuitine et tourna le lac d'Hipposarite avec prudence. Mais bientôt, il fut contraint d'allonger ses régiments en colonne pour gravir la montagne qui sépare les deux vallées. Au coucher du soleil, ils descendaient dans son sommet creux en forme d'entonnoir, quand ils aperçurent devant eux, à ras du sol, des louves de bronze qui semblaient courir sur l'herbe. Tout à coup, de grands panaches se levèrent, et au grand rythme des flûtes, un chant formidable éclata. C'était l'armée de Spendius. Car des Campaniens et des Grecs, par exécration de Carthage, avaient pris les enseignes de Rome. En même temps, sur la gauche, apparurent de longues piques, des boucliers en peau de léopard, des cuirasses de lin et des épaules nues. C'étaient les Libériens de Mato, les Lusitaliens, les Baléares et Gétules. On entendit le hennissement des chevaux de Narhavas. Ils se répandirent autour de la colline. Puis arriva la vague cohue que commandait Autharite, les Gaulois, les Libyens, les nomades. Et l'on reconnaissait au milieu d'eux les mangeurs de choses immondes aux arêtes de poissons qu'ils portaient dans la chevelure. Ainsi les barbares, combinant exactement leur marche, s'étaient rejoints. Mais, surpris eux-mêmes, ils restèrent quelques minutes immobiles et se consultant. Le suffète avait tassé ses hommes en une masse orbiculaire, de façon à offrir partout une résistance égale. Les hauts boucliers pointus, fichés dans le gazon les uns près des autres, entouraient l'infanterie. Les clinabares se tenaient en dehors et plus loin, de place en place, les éléphants. Les mercenaires étaient harassés de fatigue. Il valait mieux attendre jusqu'au jour. Et, certains de leur victoire, les barbares, pendant toute la nuit, s'occupèrent à manger. Ils avaient allumé de grands feux clairs, qui, en les éblouissant, laissaient dans l'ombre l'armée punique au-dessous d'eux. Hamilcar fit creuser autour de son camp, comme les Romains, un fossé large de 15 pas, profond de 6 coudées. Avec la terre exhaussée à l'intérieur un parapet sur lequel on planta des pieux aigus qui s'entrelaçaient, et au soleil levant, les mercenaires furent ébahis d'apercevoir tous les Carthaginois ainsi retranchés comme dans une forteresse. Il reconnaissait au milieu des tentes Hamilcar, qui se promenait en distribuant des ordres. Il avait le corps pris dans une cuirasse brune tailladée en petites écailles. Et, suivi de son cheval, de temps en temps, il s'arrêtait pour désigner quelque chose de son bras droit étendu. Alors, plus d'un se rappela des matinées pareilles, quand, au fracas des clairons, il passait devant eux lentement et que ses regards les fortifiaient comme des coupes de vin. Une sorte d'attendrissement les saisit. Ceux, au contraire, qui ne connaissaient pas Hamilcar, dans leur joie de le tenir, déliraient. Cependant, si tous s'attaquaient à la fois, on se nuirait mutuellement dans l'espace trop étroit. L'ennemi ne pouvait se lancer au travers, mais les clinabares, défendus par des cuirasses, les écraseraient. Puis comment franchir les palissades? Quant aux éléphants, ils n'étaient pas suffisamment instruits. « Vous êtes tous des lâches !» s'écria Mato. Et avec les meilleurs, il se précipita contre le retranchement. Une volée de pierres les repoussa, car le suffète avait pris sur le pont leurs catapultes abandonnées. Cet insuccès fit tourner brusquement l'esprit mobile des barbares. L'excès de leur bravoure disparut. Ils voulaient vaincre, mais en se risquant le moins possible. D'après Spendius, il fallait garder soigneusement la position que l'on avait et affamer l'armée punique. Mais les Carthaginois se mirent à creuser des puits et des montagnes entourant la colline, ils découvrirent de l'eau. Du sommet de leur palissade, ils lançaient les flèches, de la terre, du fumier, des cailloux qu'ils arrachaient du sol, pendant que les six catapultes roulaient incessamment sur la longueur de la terrasse. Mais les sources d'elles-mêmes se tariraient, on épuiserait les vivres, on userait les catapultes, et les mercenaires, 10 fois plus nombreux, finiraient par triompher. Le suffète imagina des négociations afin de gagner du temps. Et un matin, les barbares trouvèrent en ligne une peau de mouton couverte d'écritures. Il se justifiait de sa victoire. Les anciens l'avaient forcé à la guerre, et pour leur montrer qu'il gardait sa parole, il leur offrait le pillage d'Utique ou celui d'Hipposarite à leur choix. Hamilcar, en terminant, déclarait ne pas les craindre parce qu'il avait gagné des traîtres, et que grâce à cela, il viendrait à bout facilement de tous les autres. Les barbares furent troublés. Cette proposition d'un butin immédiat les faisait rêver. Ils appréhendaient une trahison, ne soupçonnant point un piège dans la forfanterie du suffète, et ils commencèrent à se regarder les uns les autres avec méfiance. On observait les paroles, les démarches. Des terreurs les réveillaient la nuit. Plusieurs abandonnaient leurs compagnons. Suivant sa fantaisie, on choisissait son armée, et les Gaulois, avec Autharite, allèrent se joindre aux hommes de la Cisalpine, dont ils comprenaient la langue. Les 4 chefs se réunissaient tous les soirs dans la tente de Mato, et accroupis autour d'un bouclier, ils avançaient et reculaient attentivement les petites figurines de bois inventées par Pyrrhus pour reproduire les manœuvres. Spendius démontrait les ressources d'Hamilcar. Il suppliait de ne point compromettre l'occasion et jurait par tous les dieux. Mato, irrité, marchait en gesticulant. La guerre contre Carthage était sa chose personnelle. Il s'indignait que les autres s'en mêlassent sans vouloir lui obéir. Autharite, à sa figure, devinait ses paroles et applaudissait. Narhavas levait le menton en signe de dédain. Pas une mesure qu'il ne jugea funeste. Et il ne souriait plus. Des soupirs lui échappaient, comme s'il eût refoulé la douleur d'un rêve impossible, le désespoir d'une entreprise manquée. Pendant que les barbares incertains délibéraient, le suffète augmentait ses défenses. Il fit creuser en deçà des palissades un second fossé, élever une seconde muraille, construire aux angles des tours de bois, et ses esclaves allaient jusqu'au milieu des avant-postes enfoncer les chausse-trappes dans la terre. Mais les éléphants, dont les rations étaient diminuées, se débattaient dans leurs entraves. Pour ménager les herbes, il ordonna au clinabar de tuer le moins robuste des étalons. Quelques-uns s'y refusèrent. Il les fit décapiter. On mangea les chevaux. Le souvenir de cette viande fraîche les jours suivants fut une grande tristesse. Du fond de l'amphithéâtre où ils se trouvaient resserrés, ils voyaient tout autour d'eux, sur les hauteurs, les quatre camps des barbares pleins d'agitation. Des femmes circulaient avec des outres sur la tête, des chèvres en bel an erraient sous les faisceaux des piques. On relevait les sentinelles, on mangeait autour des trépieds. En effet, les tribus leur fournissaient des vivres abondamment, et ils ne se doutaient pas eux-mêmes combien leur inaction effrayait l'armée punique. Dès le second jour, les Carthaginois avaient remarqué dans le camp des nomades une troupe de 300 hommes à l'écart des autres. C'étaient les riches retenus prisonniers depuis le commencement de la guerre. Des Libyens les rangèrent tous au bord du fossé, et, postés derrière eux, ils envoyaient des javelots en se faisant un rempart de leur corps. À peine pouvait-on reconnaître ces misérables tant leur visage disparaissait sous la vermine et les ordures. Leurs cheveux arrachés par endroits laissaient à nu des ulcères de leur tête, et ils étaient si maigres et si hideux qu'ils ressemblaient à des momies dans des linceuls troués. Quelques-uns, en tremblant, sanglotaient d'un air stupide. Les autres criaient à leurs amis de tirer sur les barbares. Il y en avait un, tout immobile, le front baissé, qui ne parlait pas. Sa grande barbe blanche tombait jusqu'à ses mains couvertes de chaînes, et les Carthaginois, en sentant au fond de leur cœur comme l'écroulement de la République, reconnaissaient Giscon. Bien que la place fût dangereuse, ils se poussaient pour le voir. On l'avait coiffé d'un tiare grotesque en cuir d'hippopotame, incrusté de cailloux. C'était une imagination d'otarite, mais cela déplaisait à Mato. Hamilcar, exaspéré, fit ouvrir les palissades, résolu à se faire jour n'importe comment. Et d'un train furieux, les Carthaginois montèrent jusqu'à mi-côte pendant 300 pas. Un tel flot de barbares descendit qu'ils furent refoulés sur leur ligne. Un des gardes de la Légion, resté en dehors, trébuchait parmi les pierres. Zarxas accourut et le terrassant, il lui enfonça un poignard dans la gorge. Il l'en retira, se jeta sur la blessure, et la bouche collée contre elle, avec des grondements de joie et les soubresauts qui le secouaient jusqu'au talon, il pompait le sang à pleine poitrine. Puis, tranquillement, il s'assit sur le cadavre, releva son visage en se renversant le cou pour mieux humer l'air, comme fait une biche qui vient de boire un torrent, et d'une voix aiguë, il entonna une chanson des Baléares, une vague mélodie pleine de modulations prolongées, s'interrompant, alternant, comme des échos qui se répondent dans les montagnes. Il appelait ses frères morts et les conviait à un festin. Puis il laissa retomber ses mains entre ses jambes, baissa lentement la tête et pleura. Cette chose atroce fit horreur aux barbares, aux Grecs surtout. Les Carthaginois, à partir de ce moment, ne tentèrent aucune sortie, et ils ne songeaient pas à se rendre, certains de périr dans les supplices. Cependant, les vivres, malgré les soins d'Hamilcar, diminuaient effroyablement. Pour chaque homme, il ne restait plus que 10 commets de blé, 3 rines de millet et 12 betsas de fruits secs. Plus de viande, plus d'huile, plus de salaison, pas un grain d'orge pour les chevaux. On les voyait, baissant leur encolure amaigrie, chercher dans la poussière des brins de paille piétinés. Souvent, les sentinelles, en vedette sur la terrasse, apercevaient au clair de la lune un chien des barbares qui venait rôder sous le retranchement dans l'état d'immondice. On l'assommait avec une pierre, et s'aidant des courroies du bouclier, on descendait le long des palissades, puis, sans rien dire, on le mangeait. Parfois d'horribles aboiements s'élevaient et l'homme ne remontait plus. Dans la 4e diloquie de la 12e syntagme, 3 phalangites, en se disputant un rat, se tuèrent à coups de couteau. Tous regrettaient leur famille, leur maison. Les pauvres, leur cabane en forme de ruche avec des coquilles au seuil des portes, un filet suspendu. Et les patriciens, leurs grandes salles empilées de ténèbres bleuâtres, quand, à l'heure la plus molle du jour, ils se reposaient, écoutant le bruit vague des rues mêlées au frémissement des feuilles qui s'agitaient dans leurs jardins. Et pour mieux descendre dans cette pensée, afin d'en jouir davantage, ils entrefermaient les paupières. La secousse d'une blessure les réveillait. À chaque minute, c'était un engagement, une alerte nouvelle. Les tours brûlaient, les mangeurs de choses immondes sautaient aux palissades. Avec des haches, on leur rabattait les mains. D'autres accouraient, une pluie de fer tombait sur les tentes. On éleva des galeries en claies de jonc pour se garantir des projectiles. Les Carthaginois s'y enfermèrent, ils n'en bougeaient plus. Tous les jours, le soleil qui tournait sur la colline, abandonnant dès les premières heures le fond de la gorge, les laissait dans l'ombre. En face et par derrière, les pentes grises du terrain remontaient, couvertes de cailloux tachetés d'un rare lichen, et sur leur tête, le ciel, continuellement pur, s'étalait, plus lisse et froid à l'œil qu'une coupole de métal. Hamilcar était si indigné contre Carthage qu'il sentait l'envie de se jeter dans les barbares pour les conduire sur elle. Puis voilà que les porteurs, les vivandiers, les esclaves commençaient à murmurer, et ni le peuple, ni le grand conseil, personne n'en voyait même une espérance. La situation était intolérable, surtout par l'idée qu'elle deviendrait pire. À la nouvelle du désastre, Carthage avait comme bondi de colère et de haine. On aurait moins exécré le suffète si dès le commencement il se fût laissé vaincre. Mais pour acheter d'autres mercenaires, le temps manquait, l'argent manquait. Quant à lever des soldats dans la ville, comment les étiqueter? Hamilcar avait pris toutes les armes, qui donc les commanderait? Les meilleurs capitaines se trouvaient là-bas avec lui. Cependant, des hommes expédiés par le suffète arrivaient dans les rues, poussaient des cris. Le grand conseil s'en émut et il s'arrangea pour les faire disparaître. C'était une prudence inutile. Tous accusaient Barca de s'être conduit avec mollesse. Il aurait dû, après sa victoire, anéantir les mercenaires. Mais pourquoi avait-il ravagé les tribus? On s'était cependant imposé d'assez lourds sacrifices. Et les patriciens déploraient leur contribution de 14 shekels et 6 sites leurs 223 000 kikars d'or. Ceux qui n'avaient rien donné se lamentaient comme les autres. La populace était jalouse des Carthaginois nouveaux, auxquels il avait promis le droit de cité complet. Et même les Ligures, qui s'étaient si intrépidement battus, on les confondait avec les barbares, on les maudissait comme eux. Leur race devenait un crime, une complicité. Les marchands sur le seuil de leurs boutiques, les manœuvres qui passaient, une règle de plomb à la main, les vendeurs de saumure rinçant leurs paniers, les baigneurs dans les étuves et les débitants de boissons chaudes, tous discutaient les opérations de la campagne. On traçait avec son doigt des plans de bataille sur la poussière, et il n'était si mince goujat qui ne sut corriger les fautes d'Amilcar. C'était, disaient les prêtres, le châtiment de sa longue impiété. Il n'avait point offert d'holocauste. Il n'avait pas pu purifier ses troupes. Il avait même refusé de prendre avec lui des augures. Et le scandale du sacrilège renforçait la violence des haines contenues, la rage des espoirs trahis. On se rappelait les désastres de la Sicile, tout le fardeau de son orgueil qu'on avait si longtemps porté. Les collèges des pontifes ne lui pardonnaient pas d'avoir saisi leur trésor, et ils exigèrent du grand conseil l'engagement de le crucifier si jamais il revenait. Les chaleurs du mois d'Eloul, excessives cette année-là, étaient une autre calamité. Des bords du lac, il s'élevait des odeurs nauséabondes. Elles passaient dans l'air avec les fumées des aromates tourbillonnant au coin des rues. On entendait continuellement retentir des hymnes. Des flots de peuple occupaient les escaliers des temples. Toutes les murailles étaient couvertes de voiles noires. Des sièges brûlaient au front des dieux pataïques et le sang des chameaux égorgés en sacrifice coulant le long des rampes formait sur les marches des cascades rouges. Un délire funèbre agitait Carthage. Du fond des ruelles les plus étroites, des bouches les plus noires, des figures pâles sortaient, des hommes à profil de vipère et qui grinçaient les dents. Les hurlements aigus des femmes emplissaient les maisons et s'échappant par les grillages, faisaient se retourner sur les places ce qui causait debout. On croyait quelquefois que les barbares arrivaient. On les avait aperçus derrière la montagne des eaux chaudes. Ils étaient campés à Tunis. Et les voix se multipliaient, grossissaient, se confondaient en une seule clameur. Puis un silence universel s'établissait. Les uns restaient grimpés sur le fronton des édifices, avec leurs mains ouvertes au bord des yeux, tandis que les autres, à plat ventre, au pied des remparts, tendaient l'oreille. La terreur passée, les colères recommençaient. Mais la conviction de leur impuissance les replongeait bientôt dans la même tristesse. Elle redoublait chaque soir, quand tous, montés sur les terrasses, poussait en s'inclinant par 9 fois un grand cri pour saluer le soleil. Il s'abaissait derrière la lagune, lentement, puis tout à coup il disparaissait dans les montagnes, du côté des barbares. On attendait la fête 3 fois sainte, où du haut d'un bûcher un aigle s'envolait vers le ciel, symbole de la résurrection de l'année, message du peuple à son Baal suprême, et qu'il considérait comme une sorte d'union, une manière de se rattacher à la force du soleil. D'ailleurs, empli de haine maintenant, il se tournait naïvement vers Moloch, homicide, et tous abandonnaient Tanit. En effet, la Rabetna, n'ayant plus son voile, était comme dépouillée d'une partie de sa vertu. Elle refusait la bienfaisance de ses eaux. Elle avait déserté Carthage. C'était une transfuge, une ennemie. Quelques-uns, pour l'outrager, lui jetaient des pierres. Mais en effectivement, beaucoup la plaignaient. On la chérissait encore et plus profondément, peut-être. Tous les malheurs venaient donc de la perte du Zaïmph. Salammbô y avait indirectement participé. On la comprenait dans la même rancune. Elle devait être punie. La vague idée d'une immolation bientôt circula dans le peuple. Pour apaiser les Baalim, il fallait sans doute leur offrir quelque chose d'une incalculable valeur. Un être beau, jeune, vierge, d'antique maison, issu des dieux, un astre humain. Tous les jours, des hommes que l'on ne connaissait pas envahissaient les jardins de Mégara. Les esclaves, tremblant pour eux-mêmes, n'osaient leur résister. Cependant, ils ne dépassaient point l'escalier des galères. Ils restaient en bas, les yeux levés, sur la dernière terrasse. Ils attendaient Salammbô. Et durant des heures, ils criaient contre elle comme des chiens qui hurlent après la lune. Chapitre 10. Le serpent. Ces clameurs de la populace n'épouvantaient pas la fille d'Amilcar. Elle était troublée par des inquiétudes plus hautes. Son grand serpent, le python noir, languissait. Et le serpent était pour les Carthaginois un fétiche à la fois national et particulier. On le croyait fils du limon de la terre, puisqu'il émerge de ses profondeurs et n'a pas besoin de pieds pour la parcourir. Sa démarche rappelait les ondulations des fleuves, sa température les antiques ténèbres visqueuses pleines de fécondité, et l'orbe qu'il décrit en se mordant la queue, l'ensemble des planètes, l'intelligence des Shmoun. Celui de Salammbô avait déjà plusieurs fois les quatre moineaux vivants refusés, alors qu'on les lui présentait à la pleine lune et à chaque nouvelle lune. Sa belle peau, couverte comme le firmament de taches d'or sur un fond tout noir, était jaune maintenant, flasque, ridée et trop large pour son corps. Une moisissure cotonneuse étendait autour de sa tête, et dans l'angle de ses paupières, on apercevait de petits points rouges qui paraissaient remuer. De temps à autre, Salammbô s'approchait de sa corbeille en fil d'argent. Elle écartait la courtine de pourpre, les feuilles de lotus, le duvet d'oiseau. Il était continuellement enroulé sur lui-même, plus immobile qu'une liane flétrie, et à force de le regarder, elle finissait par sentir dans son cœur comme une spirale, comme un autre serpent qui peu à peu lui montait à la gorge et l'étranglait. Elle était désespérée d'avoir vu le Zaïmph, et cependant elle en éprouvait une sorte de joie, un orgueil intime. Un mystère se dérobait dans la splendeur de ses plis. C'était le nuage enveloppant les dieux, le secret de l'existence universelle. Et Salammbô, en se faisant horreur à elle-même, regrettait de ne l'avoir pas soulevé. Presque toujours, elle était accroupie au fond de son appartement, tenant dans ses mains sa jambe gauche repliée, la bouche entrouverte, le menton baissé, l'œil fixe. Elle se rappelait avec épouvante la figure de son père. Elle voulait s'en aller dans les montagnes de la Phénicie, en pèlerinage au temple d'Afaka, où Tanit était descendue sous la forme d'une étoile. Toutes sortes d'imaginations l'attiraient, l'effrayaient. D'ailleurs, une solitude chaque jour plus large l'environnait. Elle ne savait même pas ce que devenait Hamilcar. Enfin, lasse de ses pensées, elle se levait et, entraînant ses petites sandales dont la semelle à chaque pas claquait sur ses talons, elle se promenait au hasard dans la grande chambre silencieuse. Les améthystes et les topazes du plafond faisaient çà et là trembler d'étranges taches lumineuses, et Salammbô, tout en marchant, tournait un peu la tête pour les voir. Elle allait prendre par le goulot les amphores suspendues. Elle se rafraîchissait la poitrine sous les larges éventails, ou bien elle s'amusait à brûler du cinnamome dans des perles creuses. Au coucher du soleil, Taanach retirait les losanges de feutre noir bouchant les ouvertures de la muraille. Alors ses colombes, frottées de musc comme les colombes de Tanit, tout à coup entraient et leurs pattes roses glissaient sur les dalles de verre parmi les grains d'orge qu'elle leur jetait à pleine poignée comme un semeur dans un champ. Mais soudain, elle éclatait en sanglots et elle restait étendue sur le grand lit fait de courroies de bœuf, sans remuer, en répétant un mot toujours le même, les yeux ouverts, pâle comme une morte, insensible, froide. Et cependant, elle entendait le cri des singes dans les touffes des palmiers, avec le grincement continu de la grande roue qui, à travers les étages, amenait un flot d'eau pure dans la vasque de porphyre. Quelquefois, durant plusieurs jours, elle refusait de manger. Elle voyait en rêve des astres troubles qui passaient sous ses pieds. Elle appelait Shahabarim, et quand il était venu, n'avait même plus rien à lui dire. Elle ne pouvait vivre sans le soulagement de sa présence. Mais elle se révoltait intérieurement contre cette domination. Elle sentait pour le prêtre tout à la fois de la terreur, de la jalousie, de la haine, et une espèce d'amour en reconnaissance de la singulière volupté qu'elle trouvait près de lui. Il avait reconnu l'influence de l'Arabet, habile à distinguer quels étaient les dieux qui envoyaient les maladies. Et pour guérir Salammbô, il faisait arroser son appartement avec des lotions de verveine et d'adiante. Elle mangeait tous les matins des mandragores. Elle dormait la tête sur un sachet d'aromates mixionné par les pontifes. Il avait même employé le baharas, racine couleur de feu, qui refoule dans le septentrion les génies funestes. Enfin, se tournant vers l'étoile polaire, il murmura par trois fois le nom mystérieux de Taanit. Mais Salammbô, souffrant toujours, ses angoisses s'approfondirent. Personne à Carthage n'était savant comme lui. Dans sa jeunesse, il avait étudié au collège des Mogbed à Borsippa, près de Babylone, puis visité Samothrace, Pessimonte, Éphèse, la Thessalie, la Judée, les temples des Nabatéens, qui sont perdus dans les sables, et des cataractes jusqu'à la mer, parcouru à pied les bords du Nil. La face couverte d'un voile et en secouant des flambeaux, il avait jeté un coq noir sur un feu de sang d'Arak, devant le poitrail du sphinx, le père de la terreur. Il était descendu dans les cavernes de Proserpine. Il avait vu tourner les 500 colonnes du labyrinthe de Lemnos et resplendir le candélabre de Tarente, portant sur sa tige autant de lampadaires qu'il y a de jours dans l'année. La nuit, parfois, il recevait des Grecs pour les interroger. La constitution du monde ne l'inquiétait pas moins que la nature des dieux. Avec les armilles placées dans le portique d'Alexandrie, il avait observé les équinoxes et accompagné jusqu'à Cyrène les bématistes des vergettes qui mesurent le ciel en calculant le nombre de leurs pas. Si bien que maintenant grandissait dans sa pensée une religion particulière, sans formule distincte, et à cause de cela même toute pleine de vertige et d'ardeur. Il ne croyait plus la terre faite comme une pomme de pin. Il la croyait ronde et tombant éternellement dans l'immensité avec une vitesse si prodigieuse qu'on ne s'aperçoit pas de sa chute. De la position du soleil au-dessus de la lune, il concluait à la prédominance de Baal, dont l'astre lui-même n'est que le reflet et la figure. D'ailleurs, tout ce qu'il voyait des choses terrestres le forçait à reconnaître pour suprême le principe mâle exterminateur. Puis il accusait secrètement la rabbine de l'infortune de sa vie. N'était-ce pas pour elle qu'autrefois, le grand pontife, s'avançant dans le tumulte des cymbales, lui avait pris sous une patère d'eau bouillante sa virilité future? Et il suivait d'un œil mélancolique des hommes qui se perdaient avec les prêtresses au fond des térébintes. Ses jours se passaient à inspecter les encensoirs, les vases d'or, les pinces, les râteaux pour les cendres de l'autel et toutes les robes des statues, jusqu'à l'aiguille de bronze servant à fixer les cheveux d'une vieille tanite dans le troisième édicule près de la vigne d'émeraude. Aux mêmes heures, il soulevait les grandes tapisseries des mêmes portes qui retombaient. Il restait les bras ouverts dans la même attitude. Il priait prosterné sur les mêmes dalles, tandis qu'autour de lui, un peuple de prêtres circulait pieds nus par les couloirs, plein d'un crépuscule éternel. Mais sur l'aridité de sa vie, Salammbô faisait comme une fleur dans la fente d'un sépulcre. Cependant, il était dur pour elle et ne lui épargnait point les pénitences ni les paroles amères. Sa condition établissait entre eux comme l'égalité d'un sexe commun, et il en voulait moins à la jeune fille de ne pouvoir la posséder que de la trouver si belle et surtout si pure. Souvent, il voyait bien qu'elle se fatiguait à suivre sa pensée. Alors il s'en retournait plus triste. Il se sentait plus abandonné, plus seul, plus vide. Des mots étranges quelquefois lui échappaient et qui passaient devant Salammbô comme de larges éclairs illuminant des abîmes. C'était la nuit sur la terrasse quand, seuls tous les deux, ils regardaient les étoiles et que Carthage s'étalait en bas sous leurs pieds avec le golfe et la pleine mer vaguement perdus dans la couleur des ténèbres. Il lui exposait la théorie des âmes qui descendent sur la terre en suivant la même route que le soleil par les signes du zodiaque. De son bras étendu, il montrait dans le bélier la porte de la génération humaine, dans le capricorne celle du retour vers les dieux. Et Salammbô s'efforçait de les apercevoir, car elle prenait ses conceptions pour des réalités. Elle acceptait comme vraies en eux-mêmes de purs symboles et jusqu'à des manières de langage, distinction qui n'était pas non plus toujours bien nette pour le prêtre. Les âmes des morts, disait-il, se résolvent dans la lune comme les cadavres dans la terre. Leurs larmes composent son humidité. C'est un séjour obscur, plein de fanges, de débris et de tempêtes. Elle demanda ce qu'il y deviendrait. Oh, d'abord, tu languiras, légère comme une vapeur qui se balance sur les flots, et après des épreuves et des angoisses plus longues, tu t'en iras dans le foyer du soleil, à la source même de l'intelligence. Cependant, il ne parlait pas de la rabbette. Salammbô s'imaginait que c'était par pudeur pour sa déesse vaincue, et l'appelant d'un nom commun qui désignait la lune, elle se répandait en bénédiction sur l'astre fertile et doux. À la fin, il s'écria « Non, non, elle tire de l'autre toute sa fécondité. Ne la vois-tu pas vagabondant autour de lui comme une femme amoureuse qui court après un homme dans un champ ?» Et sans cesse, il exaltait la vertu de la lumière. Loin d'abattre ses désirs mystiques, au contraire, il les sollicitait, et même il semblait prendre de la joie à la désoler par les révélations d'une doctrine impitoyable. Salammbô, malgré les douleurs de son amour, se jetait dessus avec emportement. Mais plus Shahabarim se sentait douter de Tanit, plus il voulait y croire. Au fond de son âme, un remords l'arrêtait. Il lui aurait fallu quelques preuves, une manifestation des dieux. Et dans l'espoir de l'obtenir, le prêtre imagina une entreprise qui pouvait à la fois sauver sa patrie et sa croyance. Dès lors, il se mit devant Salammbô à déplorer le sacrilège et les malheurs qui en résultaient jusque dans les régions du ciel. Puis, tout à coup, il lui annonça le péril du suffète, assailli par 3 armées que commandait Mato. Car Mato, pour les Carthaginois, était, à cause du voile, comme le roi des barbares. Et il ajouta que le salut de la République et de son père dépendait d'elle seule. « De moi ?» s'écria-t-elle, « mais comment puis-je ?» Mais le prêtre, avec un sourire de dédain, « Oh, jamais tu ne consentiras !» Elle le suppliait. Enfin, Shahabarim lui dit « Il faut que tu ailles chez les barbares reprendre le Zaïmph. » Elle s'affaissa sur l'escabeau d'ébène. Et elle restait les bras allongés contre ses genoux avec un frisson de tous ses membres, comme une victime au pied de l'autel quand elle attend le coup de massue. Ses tempes bourdonnaient. Elle voyait tourner des cercles de feu. Et dans sa stupeur, ne comprenait plus qu'une chose, c'est que certainement elle allait bientôt mourir. Mais si Rabetna triomphait, si le Zaïmph était rendu et Carthage délivré, qu'importe la vie d'une femme, pensait Shahabarim. D'ailleurs, elle obtiendrait peut-être le voile et ne plairait pas. Il fut 3 jours sans revenir. Le soir du 4e, elle l'envoya chercher. Pour mieux enflammer son cœur, il lui apportait toutes les invectives que l'on hurlait contre Hannibal en plein conseil. Il lui disait qu'elle avait failli, qu'elle devait réparer son crime et que la Rabetna ordonnait ce sacrifice. Souvent, une large clameur traversant les Mappales arrivait dans Mégara. Shahabarim et Salammbô sentaient vivement et du haut de l'escalier des galères, il regardait. C'étaient des gens sur la place de Khamon qui criaient pour avoir des armes. Les anciens ne voulaient pas leur en fournir, estimant cet effort inutile. D'autres partis sans général avaient été massacrés. Enfin, on leur permit de s'en aller, et par une sorte d'hommage à Moloch ou un vague besoin de destruction, ils arrachèrent dans les bois des temples de grands cyprès, et les ayant allumés au flambeau des kabyres, ils les portaient dans les rues en chantant. Ces flammes monstrueuses s'avançaient, balancées doucement. Elles envoyaient des feux sur des boules de verre à la crête des temples, sur les ornements des colosses, sur les éperons des navires, dépassaient les terrasses et faisaient comme des soleils qui se roulait par la ville. Elles descendirent l'acropole. La porte de Malka s'ouvrit. Es-tu prête? S'écria Shaharim. Ou leur as-tu recommandé de dire à ton père que tu l'abandonnais? Elle se cacha le visage dans ses voiles, et les grandes lueurs s'éloignèrent en s'abaissant peu à peu au bord des flots. Une épouvante indéterminée la retenait. Elle avait peur de Moloch, peur de Mato. Cet homme à taille de géant et qui était maître du Zaïmph dominait la Rabetna autant que le Baal et lui apparaissait entouré des mêmes fulgurations. Puis l'âme des dieux quelquefois visitait le corps des hommes. Shaharim, en parlant de celui-là, ne disait-il pas qu'elle devait vaincre Moloch? Ils étaient mêlés l'un à l'autre, elle les confondait, et tous les deux la poursuivaient. Elle voulut connaître l'avenir, et elle s'approcha du serpent, car on tirait les augures d'après l'attitude des serpents. Mais la corbeille était vide. Salammbô fut troublée. Elle le trouva enroulé par la queue à un des balustres d'argent près du lit suspendu, et il le frottait pour se dégager de sa vieille peau jaunâtre, tandis que son corps tout luisant et clair s'allongeait comme un glaive à moitié sorti du fourreau. Puis les jours suivants, à mesure qu'elle se laissait convaincre, qu'elle était plus disposée à secourir Tanit, le python se guérissait, grossissait, il semblait revivre. La certitude que Shaharim exprimait la volonté des dieux s'établit alors dans sa conscience. Un matin, elle se réveilla déterminée et elle demanda ce qu'il fallait pour que Mato rendît le voile. « L'heure est clamée, » dit Shaharim. « Mais s'il refuse, » reprit-elle. Le prêtre la considéra fixement, et avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu. « Oui, comment faire ?» répéta Salammbô. Il roulait entre ses doigts l'extrémité des bandelettes qui tombaient de sa tiare sur ses épaules, les yeux baissés, immobiles. Enfin, voyant qu'elle ne comprenait pas, tu seras seul avec lui. Après, dit-elle, seul dans sa tente. Et alors? Shaharim se mordit les lèvres, il cherchait quelques phrases à un détour. « Mais si tu dois mourir, ce sera plus tard, dit-il, plus tard. Ne crains rien, et quoi qu'il entreprenne, n'appelle pas, ne t'effraie pas. Tu seras humble, entends-tu, et soumise à son désir qui est l'ordre du ciel. Mais le voile, les dieux y aviseront, répondit Shaharim. » Elle ajouta, « Oh, si tu m'accompagnais, ô père, ah non !» Il la fit se mettre à genoux, et gardant la main gauche levée et la droite étendue, il jura pour elle de rapporter dans Carthage le manteau de Tanit. Avec des imprécations terribles, elle se dévouait aux dieux, et chaque fois que Shaharim prononçait un mot, en défaillant, elle le répétait. Il lui indiqua toutes les purifications, les jeûnes qu'elle devait faire et comment parvenir jusqu'à Mato. D'ailleurs, un homme connaissait les routes et l'accompagnerait. Elle se sentit comme délivrée. Elle ne songeait plus qu'au bonheur de revoir le Zaïmph, et maintenant elle bénissait Shaharim de ses exhortations. C'était l'époque où les colombes de Carthage émigraient en Sicile, dans la montagne d'Eryx, autour du temple de Vénus. Avant leur départ, durant plusieurs jours, elles se cherchaient, s'appelaient pour se réunir. Enfin, elles s'envolèrent un soir, le vent les poussait, et cette grosse nuée blanche glissait dans le ciel, au-dessus de la mer, très haut. Une couleur de sang occupait l'horizon. Elle semblait descendre vers les flots peu à peu, puis elles disparurent comme englouties et tombant d'elles-mêmes dans la gueule du soleil. Salammbô, qui les regardait s'éloigner, baissa la tête, et Taanach, croyant deviner son chagrin, lui dit alors doucement « Mais elles reviendront, maîtresse. Oui, je le sais. Et tu les reverras. Peut-être, fit-elle en soupirant. » Elle n'avait confié à personne sa résolution. Pour l'accomplir plus discrètement, elle envoya Taanach acheter dans le faubourg du Kinisdo, au lieu de le demander aux intendants, toutes les choses qu'il lui fallait. Du vermillon, des aromates, une ceinture de lin et des vêtements neufs. La vieille esclave s'ébahissait de ses préparatifs, sans oser pourtant lui faire de questions. Et le jour arriva, fixé par Shahbarim, où Salammbô devait partir. Vers la 12e heure, elle aperçut au fond des sycomores un vieillard aveugle, la main appuyée sur l'épaule d'un enfant qui marchait devant lui, et de l'autre il portait contre sa hanche une espèce de sitar en bois noir. Les eunuques, les esclaves, les femmes avaient été scrupuleusement éloignés. Aucun ne pouvait savoir le mystère qui se préparait. Taanach alluma dans les angles de l'appartement 4 trépieds pleins de strobus et de cardamome. Puis elle déploya de grandes tapisseries babyloniennes et elle les tendit sur des cordes tout autour de la chambre. Car Salammbô ne voulait pas être vue même par les murailles. Le joueur de kinnor se tenait accroupi derrière la porte et le jeune garçon debout appliquait contre ses lèvres une flûte de roseau. Au loin, la clameur des rues s'affaiblissait. Des ombres violettes s'allongeaient devant le péristyle des temples, et de l'autre côté du golfe, les bases des montagnes, les champs d'oliviers et les vagues terrain jaune ondulaient indéfiniment, se confondaient dans une vapeur bleuâtre. On n'entendait aucun bruit, un accablement indicible pesait dans l'air. Salammbô s'accroupit sur la marche d'onyx au bord du bassin. Elle releva ses larges manches qu'elle attacha derrière ses épaules et elle commença ses ablutions méthodiquement d'après les rites sacrés. Enfin, Taanach lui apporta dans une fiole d'albâtre quelque chose de liquide et de coagulé. C'était le sang d'un chien noir, égorgé par des femmes stériles, une nuit d'hiver dans les décombres d'un sépulcre. Elle s'en frotta les oreilles, les talons, le pouce de la main droite, et même son ongle resta un peu rouge, comme si elle eût écrasé un fruit. La lune se leva. Alors la sitar et la flûte, toutes les deux à la fois, se virent à jouer. Salammbô défit ses pendants d'oreilles, son collier, ses bracelets, sa longue simarre blanche. Elle dénoua le bandeau de ses cheveux et pendant quelques minutes, elle les secoua sur ses épaules, doucement, pour se rafraîchir en les éparpillant. La musique au dehors continuait. C'étaient 3 notes, toujours les mêmes, précipitées, furieuses. Les cordes grinçaient, la flûte ronflait. Taanach marquait la cadence en frappant dans ses mains, Salambo, avec un balancement de tout son corps, psalmodiait les prières, et ses vêtements les uns après les autres tombaient autour d'elle. La lourde tapisserie trembla, et par-dessus la corde qui la supportait, la tête du python apparut. Il descendit lentement, comme une goutte d'eau qui coule le long d'un mur, rampa entre les étoffes épandues, puis, la queue collée contre le sol, il se leva tout droit, et ses yeux, plus brillants que des escarboucles, se dardaient sur Salambo. L'horreur du froid, ou une pudeur peut-être, la fit d'abord hésiter. Mais elle se rappela les ordres du Shahabarim. Elle s'avança. Le python se rabattit, et lui posant sur la nuque le milieu de son corps, il laissait pendre sa tête et sa queue comme un collier rompu dont les deux bouts traînaient jusqu'à terre. Salambo l'entoura autour de ses flancs, sous ses bras, entre ses genoux. Puis le prenant à la mâchoire, elle approcha cette petite gueule triangulaire jusqu'au bord de ses dents, et en fermant à demi les yeux, elle se renversait sous les rayons de la lune. La blanche lumière semblait l'envelopper d'un brouillard d'argent, la forme de ses pas humides brillait sur les dalles, des étoiles palpitaient dans la profondeur de l'eau. Il serrait contre elle ses noirs anneaux tigrés de plaques d'or. Salambo haletait sous ce poids trop lourd, ses reins pliaient, elle se sentait mourir. Et du bout de sa queue, il lui battait la cuisse tout doucement. Puis la musique se taisant, il retomba. Tanarg vint près d'elle, et quand elle eut disposé deux candélabres dont les lumières brûlaient dans les boules de cristal pleines d'eau, elle teignit de l'ozonia l'intérieur de ses mains, passa du vermillon sur ses joues, de l'antimoine au bord de ses paupières, et allongea ses sourcils avec un mélange de gomme, de musc, d'ébène et de pattes de mouches écrasées. Salambo, assise dans une chaise à montant d'ivoire, s'abandonnait aux soins de l'esclave. Mais ses attouchements, l'odeur des aromates et les jeûnes qu'elle avait subis l'énervaient. Elle devint si pâle que Tanar s'arrêta. « Continue, » dit Salambo. Et se roidissant contre elle-même, elle se ranima tout à coup. Alors une impatience la saisit, elle pressait Tahanag de se hâter, et la vieille esclave en grommelant « Bien, bien, maîtresse, tu n'as d'ailleurs personne qui t'attende. » « Oui, dit Salambo, quelqu'un m'attend. » Tahanag se recula de surprise, et afin d'en savoir plus long, « Que m'ordonnes-tu, maîtresse, car si tu dois rester partie ?» Mais Salambo sanglotait. L'esclave s'écria, « Tu souffres, qu'as-tu donc ? Ne t'en va pas, emmène-moi. Quand tu étais toute petite et que tu pleurais, je te prenais sur mon cœur et je te faisais rire avec la pointe de mes mamelles. Tu les as taries, maîtresse. » Elle se donnait des coups sur sa poitrine desséchée. « Maintenant, je suis vieille, je ne peux rien pour toi. Tu ne m'aimes plus. Tu me caches tes douleurs. Tu dédaignes ta nourrice. » Et de tendresse et de dépit, des larmes coulaient le long de ses joues, dans les balafres de son tatouage. « Non, dit Salambo, non, je t'aime. Console-toi. » Tahanag, avec un sourire, pareil à la grimace d'un vieux singe, reprit sa besogne. D'après les recommandations de Shahabarim, Salambo lui avait ordonné de la rendre magnifique, et elle l'accommodait dans un goût barbare, plein à la fois de recherche et d'ingénuité. Sur une première tunique mince et de couleur vineuse, elle en passa une seconde brodée en plumes d'oiseaux. Des écailles d'or se collaient à ses hanches, et de cette large ceinture descendaient les flots de ses caleçons bleus étoilés d'argent. Ensuite, Taanach lui emmancha une grande robe faite avec la toile du pays des cerfs, blanche et bariolée de lignes vertes. Elle attacha au bord de son épaule un carré de pourpre appesanti dans le bas par des grains de sang d'astrome, et par-dessus tous ses vêtements, elle posa un manteau noir à queue traînante. Puis elle la contempla, et fière de son œuvre, ne put s'empêcher de dire « Oh, tu ne seras pas plus belle le jour de tes noces !»« Mes noces ?» répéta Salammbô. Elle rêvait, le coude appuyé sur la chaise d'ivoire. Mais Taanach dressa devant elle un miroir de cuivre si large et si haut qu'elle s'y aperçut tout entière. Alors elle se leva et, d'un coup de doigt léger, remonta une boucle de ses cheveux qui descendait trop bas. Ils étaient couverts de poudre d'or, crépis sur le front et par derrière ils pendaient dans le dos en longues torsades que terminaient des perles. Les clartés des candélabres avivaient le fard de ses joues, l'or de ses vêtements, la blancheur de sa peau. Elle avait autour de la taille, sur les bras, sur les mains et aux doigts, une telle abondance de pierreries que le miroir, comme un soleil, lui renvoyait des rayons. Et Salammbô, debout à côté de Taanach, se penchant pour la voir, souriait dans cet éblouissement. Puis elle se promena de long en large, embarrassée du temps qui lui restait. Tout à coup, le chant d'un coq retentit. Elle piqua vivement sur ses cheveux un long voile jaune, se passa une écharpe autour du cou, enfonça ses pieds dans des bottines de cuir bleu, et elle dit à Taanach « Va voir sous les myrtes s'il n'y a pas un homme avec deux chevaux. » Taanach était à peine rentrée qu'elle descendait l'escalier des galeries. « Maîtresse !» cria la nourrice. Salammbô se retourna, un doigt sur la bouche, en signe de discrétion et d'immobilité. Taanach se coula doucement le long des proues jusqu'au bas de la terrasse, et de loin, à la clarté de la lune, elle distingua, dans l'avenue des cyprès, une ombre gigantesque marchant à la gauche de Salammbô obliquement, ce qui était un présage de mort. Taanach remonta dans la chambre. Elle se jeta par terre en se déchirant le visage avec ses ongles. Elle s'arrachait les cheveux et à pleine poitrine poussait des hurlements aigus. L'idée lui vint que l'on pouvait les entendre, alors elle se tut. Elle sanglotait tout bas, la tête dans ses mains, et la figure sur les dalles.